Radio Okapi.
Les journaux Blaise Chindali.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. D'abord les titres de ce journal. Le président de la CNDH note des avancées sur la création d'une mission par son institution en vue de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme liées au massacre des populations civiles au Kasaï central et au double meurtre des experts onusiens. L'école nationale d'administration sera bientôt dotée d'un campus à Kinshasa. C'est l'instruction de Félix-Antoine Tshisekedi au gouvernement de la République. C'était hier lors de la cérémonie couplée marquant l'entrée de la 10e promotion et la sortie de la 9e promotion de l'ENA. L'absence prolongée du gouverneur du Haut-Katanga pose problème. Cette absence est une violation de la loi, a déclaré Maître Justin Kiela, président national du parti Vent d'Avenir, lundi à Lubumbashi lors d'une conférence de presse. Cette question était débattue hier au cours de l'émission Dialogue entre Congolais. Vous suivrez tour à tour les intervenants à cette émission au micro de Guimate Tchongo. Encore une fois, bonjour à tous. Création d'une mission par la CNDH le 2 février dernier en vue de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme liées au massacre des populations civiles au Kasaï central et au double meurtre des experts onusiens Zaïda Catalan et Michael Sharp. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme note des avancées. Paul Nsampo Mukulu, qui était l'invité de l'émission Parole aux auditeurs, hier mardi 10 février 2026, a indiqué que cette mission avance dans la bonne direction et vise à identifier les auteurs des violations des droits de l'homme liées à ces massacres des civils dans les Kasaï central entre 2016 et 2017 pendant la crise de Kamwana Nsampo ainsi qu'au meurtre de deux experts onusiens. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Nsampo Mukulu, est au micro de Jean-Marc Matwaki.
Nous ne sommes qu'à la phase préliminaire, mais nous avons des indices sérieux que voilà. Le temps de la justice, le temps pour élucider un meurtre, un crime comme celui-là, c'est le temps de l'avancement même de la mission d'enquête qui commence par la mission d'établissement de faits. Et puisque nous avons ces indices-là, et nous avons une panoplie de cartes que nous pouvons dessiner sur le lieu où les crimes ont été commis, et des témoins, on n'en manque pas. Mais déjà, ceux qui sont dans les box, ce sont des personnes que nous pourrions encore interviewer. Une institution d'appui à la démocratie comme la nôtre, constituée pour promouvoir et protéger les droits de l'homme, et bien ne peut que examiner ce genre de dossier, même si on intervient parfois en retard, faute peut-être de moyens.
La présence des miliciens dans les camps des déplacés aggrave en même temps la situation humanitaire de ces déplacés puisqu'ils sont utilisés comme boucliers humains. Ce n'est pas nous qui les disons, mais plutôt certains acteurs politiques de l'Ituri. C'est pourquoi une trentaine de sites de déplacés installés autour de la localité de Boulé, dans le territoire de Djougou, devraient être évacués selon eux. Objectif, faciliter les opérations militaires contre le groupe armé Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga, dont certains miliciens se cacheraient dans ces sites et mettre fin à la persistance de l'insécurité dans cette entité. Isaac Remoyo peut nous en dire plus.
Les combats sont signalés depuis le début du mois de décembre à Boulé et dans ses environs, opposant les FARDC aux miliciens de la CRP. Selon des sources locales, certains de ces combattants seraient recrutés dans les sites déplacés. Une fois repoussés par l'armée, ces miliciens se replieraient dans les camps pour planifier de nouvelles attaques. Pour consolider la paix dans cette zone, tous les sites installés autour de Boulé doivent être évacués, estime Lik Malembe, acteur politique en Ituri.
Je plaide pour que tous les sites soient évacués afin que les miliciens restent et
qu'il soit frappé totalement par l'armée. Parce que les opérations de l'armée sont compliquées par la présence des sites de déplacés.
De son côté, l'administrateur du territoire de Djougou indique que le gouvernement s'emploie à restaurer l'autorité de l'État dans leur village d'origine afin de faciliter les retours des déplacés et d'assurer un meilleur contrôle de la population. Colonel Rifin Makbela.
Que chacun rentre dans ses milieux respectifs. On puisse arriver maintenant à sécuriser leurs milieux parce que là, on sera à mesure de contrôler les populations qui sont dans des villages. Mais lorsqu'ils sont dans des sites, nous n'avons pas la possibilité d'entrer et les armes sont là.
Par ailleurs, des perquisitions sont régulièrement menées par les services de sécurité dans certains sites, notamment Nyamsasi, Achomia et Kigonza Bounia, afin de dénicher des suspects ainsi que des armes et autres effets de guerre. Bounia, Isakre Moyope, Radio Okapi.
Et puis la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale dit non à l'agression de la RDC et aux attaques par drone de l'aéroport international de Bangoka. Ils se sont prononcés hier lundi au cours d'une déclaration politique qui a réuni le gouverneur de la Tchopo, du Haut-Ouélé, de Bas-Ouélé et les représentants de l'Ituri à Kisangani. Jean Bakoumi Tongabou, coordonnateur de la Grande Orientale et gouverneur de la province du Haut-Ouélé, appelle ainsi la population des quatre provinces issues de l'ex-province orientale a demeuré vigilante pour barrer la route à l'ennemi en dénonçant les suspects afin d'éviter des attaques à répétition de l'aéroport de Kisangani. Jean Bakoumi Tongabou, dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Tous réunis pour dénoncer avec la dernière énergie l'attaque barbare qu'a connue la ville de Kisangani. Des drones kamikazes ont été lancés sur l'aéroport de Bamboka par l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC-M23. Grâce bien sûr à la vigilance de nos FRDC, ces attaques ont été déjouées et ces drones ont été neutralisés. Et donc il était très important que nous puissions nous réunir en urgence dans le cadre de la dynamique de la Grande Orientale pour condamner fermement cet acte et pour appeler notre population, nos frères et sœurs de la Grande Orientale à la plus grande vigilance et répondre à ces attaques par l'appel à l'unité des fils et filles de la Grande Orientale, les appeler à être tous derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi qui fait beaucoup d'efforts pour amener la paix sur l'ensemble du territoire national. Nous devons rester vigilants et nous devons soutenir les efforts qui sont faits actuellement par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi.
Notez aussi que Kinshasa et Brazzaville renforcent leur coopération sur le plan sécuritaire. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre de la Défense nationale séjourne depuis lundi dernier de l'autre côté de Poulmalébo afin de consolider les partenariats militaires entre les deux Congos. À travers ce déplacement, Guy Kabombo Mwadiamvita entend approfondir la coordination stratégique face aux défis sécuritaires communs dans la sous-région. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
La mission officielle du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire et bilatérale entre les deux pays frontaliers. L'agenda de Guy Kabombo Mwadiamvita prévoit un tête-à-tête avec son homologue du Congo-Brazzaville, général Charles Richard Mondjo, ainsi que plusieurs séances de travail avec les experts sectoriels des deux Congos. Ces échanges porteront sur le partage d'expériences, la coordination opérationnelle et les renforcements des capacités institutionnelles dans un contexte où les enjeux sécuritaires dépassent largement les frontières nationales. Séparés par le fleuve Congo, mais unis par des intérêts communs, Kinshasa et Brazzaville souhaitent également approfondir leur partenariat militaire afin d'y répondre plus efficacement. La visite du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale intervient dans un contexte marqué par des menaces transfrontalières entre les deux capitale le plus rapproché du monde.
Je le disais en titre, bientôt un campus pour l'école nationale d'administration à Kinshasa. Le président de la République a instruit le gouvernement de le construire dans les jours à venir. Félix-Antoine Tshisekedi a formulé cette demande ce mardi à Kinshasa lors de la cérémonie couplée marquant l'entrée de la 10e promotion et la sortie de la 9e promotion de l'ENA. De son côté, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a assuré que plus de 900 postes sont réservés aux lauréats de la 9e promotion. Plus de détails avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Organisée au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale, cette cérémonie a coïncidé avec la célébration du 10e anniversaire de l'École nationale d'administration. Dans son discours, le directeur général de cet établissement public explique que l'ambition est de contribuer à la professionnalisation de la gestion des projets et des pratiques de gouvernance en RDC. Tombola Mouké annonce pendant le lancement dès le mois de mai prochain d'un programme spécialisé destiné aux dirigeants du secteur public en vue de co-construire la solution congolaise du leadership. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique note que la réforme de l'État dépend de la qualité des femmes et hommes qui l'incarnent. Jean-Pierre Liaou s'est réjoui qu'Elena soit désormais placée au cœur de la refondation de l'administration publique, accordant ainsi la chance égale aux jeunes de toutes catégories. Pour sa part, le chef de l'État indique que la grandeur de la RDC ne réside pas seulement dans ses richesses du sol et du sous-sol, mais également dans la qualité de sa ressource sortie d'Elena, et la plupart œuvrent déjà au sein de l'administration publique.
Bonne nouvelle également pour la population de Beni au Nord Kivu, au moins 16 infrastructures de base, dont 13 écoles et 3 centres de santé, construites dans le cadre du projet de relèvement communautaire mené par Star RDC, entendez, projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC, Star RDC en sigle, leur ont été officiellement remises lundi. Satisfaction évidemment, du côté des heureux bénéficiaires, ces infrastructures devant améliorer leurs conditions d'études et de prise en charge sanitaire. Le point avec Marc Marofimbo.
Il s'agit de 7 écoles primaires, 6 écoles secondaires et 3 centres de santé, tous terminés et remis aux bénéficiaires lors d'une cérémonie marquée par la présence du vice-gouverneur de la province. Les centres de santé se trouvent à Mabaku, Irango et Halungupa. 14 écoles dans les territoires de Beni, elles sont situées à Masosi, Masaka, Semuliki, Safina, Kalunguta et Kambi. En ville, on retrouve Kesheni, lieu de cérémonie, Ngongolio, Emmaüs, Kassando, Ntoni, ainsi que les secondaires instituts Asefu et Wasinya. Les élèves de Kesheni ont exprimé leur satisfaction.
Je me sens laissé. Je dis que Dieu bénisse le Star RDC de nous donner le nouvel bâtiment.
Nous étudions ici, mais nous n'étudions pas bien. Je dis merci.
Le directeur de l'école primaire, David Mugabunda-Mwanga, a souligné l'importance de cette dotation pour la qualité de l'éducation.
Nous soulignons la qualité de l'éducation. Et comme nous avons maintenant des salles de qualité, nous pensons que nous allons offrir une éducation de qualité à nos enfants.
Star RDC poursuit la construction des vessies, autres infrastructures durables. 6 projets d'eau potable sont également en cours, tandis que d'autres besoins sont à l'étude et seront réalisés après cette première phase. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Au Maniema, 5 sites pilotes ont été identifiés pour des études de faisabilité en vue de la construction des mini-barrages électriques ou de l'installation des stations météorologiques. Ce travail a été réalisé par le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, en collaboration avec ses partenaires. Ces sites s'inscrivent dans le cadre du projet Eau, Énergie et Écosystème WIN en sigle, exécuté par la coopération allemande GIZ. Selon les organisateurs, cette initiative vise l'exploitation et la conservation durable des ressources naturelles. Détail avec Florence Kizalunga.
D'après le directeur du CREBAC, le professeur Raphaël Chimanga, le projet WIN est particulièrement bénéfique pour le Maniema qui dispose d'un important potentiel en ressources naturelles, notamment en eau. Ces ressources, souligne-t-il, peuvent contribuer davantage au développement de la province.
Il était question de pouvoir avoir de la concertation avec les parties prenantes. Il était aussi question de pouvoir identifier les sites de démonstration puisque ce projet sert de cas pilote. Nous sommes arrivés à terminer les sites de démonstration. Nous avons identifié 5 sites dont le site de Mikelenge qui est vraiment un bassin versant urbain qui subit des pollutions mais aussi qui manifeste des cas d'inondations. Le site de Kasuku, la rivière Kasuku. Nous avons identifié le site de la rivière Elila où il y a un grand potentiel hydroélectrique. Le 4e site c'est celui de la rivière Ulindi et le 5e site c'est celui de la rivière Kuna. Donc voilà les 5 sites que nous avons identifiés.
Ces 5 sites serviront de base pilote pour la collecte des données, a conclu le directeur du CREBAC. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Une brigade spéciale pour contrôler les taxes et faire respecter les tarifs des transports urbains dans le Congo central. Elle vient de voir le jour à Matadi. Cette structure a deux missions, vous l'avez compris. D'une part, faire respecter strictement les grilles tarifaires de transport en commun arrêtées par la mairie. D'autre part, veiller au paiement effectif des taxes dues à l'État par les motocyclistes afin de doter la ville des moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa politique de réhabilitation des infrastructures routières. Cette brigade composée des motocyclistes eux-mêmes et des agents de la mairie a été rendue publique à l'issue d'une importante réunion tenue récemment à Matadi entre les parties prenantes. Dominique Nkodiambete, maire de la ville de Matadi, qui l'a créée, dit motiver sa décision à la suite des violations répétées des grilles tarifaires officielles et au refus persistant des conducteurs des taxis-motos de s'acquitter des taxes dues à l'État. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nana Plurich.
La brigade que nous avons créée va s'occuper de la vérification des paiements des taxes que nous avons mutualisées avec la province, la mairie et les communes. C'est-à-dire qu'au niveau des motocyclistes, nous, la mairie, nous avons une taxe de stationnement à percevoir. La province, à travers la DGRKC, a la taxe qu'on appelle la TCR à percevoir. Et les communes ont la taxe de numérotage. Alors, au lieu de percevoir de façon séparée, chacun dans son coin, nous avions à un moment donné mutualisé nos efforts avec la province et les communes pour que la perception se fasse par une société privée qui fait le travail à notre place. Alors, nous avons constaté que, vous savez, les motocyclistes ne payent vraiment pas. Alors, il fallait mettre en place une brigade composée notamment des motocyclistes eux-mêmes et quelques agents de la mairie pour vérifier si tous les motocyclistes ont payé leurs taxes mutualisées. Parce que, bon, on ne peut pas comprendre que les motocyclistes refusent de payer alors que c'est pas eux qui supportent la charge de cette taxe. Les motocyclistes, lui, ne fait que payer pour le compte de son patron.
Contacté, le président de l'association des motocyclistes de Matadi, Ladi Pouloulou, affirme qu'il n'y a pas de frustration et d'opposition à ces sujets, car les motocyclistes eux-mêmes sont partie prenante et ont un quota dans cet axe.
Actualité internationale.
Ils observent de loin la répression qui se poursuit dans leur pays d'origine, l'Iran. Mais loin de s'unir pour tenter de changer la réalité sur le terrain, les membres de l'opposition au régime islamique d'Iran qui vivent à l'étranger se divisent et se déchirent. Une minorité parmi cette opposition instaure même un climat de terreur, en particulier sur les réseaux sociaux, contre toute voix dissonante.
L'invité.
L'absence prolongée du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, pose problème. Cette absence est une violation de la loi, a déclaré Maître Justin Kiela, président national du parti Vent d'Avenir, lundi à Lubumbashi dans une conférence de presse. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi ont échangé autour de cette thématique. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Maître Justin Kiela, vous êtes président national du parti politique Vent d'Avenir. Vous êtes également notable de la province du Haut-Katanga. Qu'est-ce qui vous motive pour dénoncer l'absence prolongée du gouverneur Jacques Kiaboula du Haut-Katanga?
Écoutez, je suis très loin de faire l'avocat du gouverneur Kiaboula. Je suis très loin de faire le bourreau du vice-gouverneur qui fait l'intérim en province. Je me fais disciple de la loi parce que moi j'ai prêté serment comme avocat et je sais que même l'Union sacrée est derrière la loi. On ne viole pas les lois. J'ai tirer la sonnette d'alarme sur le fait qu'il y a une illégalité qui s'est installée dans la province. La loi a déjà tout prévu. Ce que la loi n'a pas prévu n'existe pas. On ne peut pas faire exister la loi là où elle n'a rien dit. Quand un gouverneur est absent de la province, c'est son vice-gouverneur qui fait l'intérim, c'est automatique. Mais dès lors qu'il dépasse le délai de 120 jours, personne ne dit mot, le ministre de l'Intérieur ne bouge pas, l'Assemblée provinciale ne dit rien, et aujourd'hui nous sommes à 7 mois Nous avons un gouverneur intérimaire qui est là, qui se recherche, j'imagine, qui essaye de commencer à imprimer sa propre vision, alors qu'en réalité, il y a un gouverneur qui est au pays. C'est pas qu'il a été invité aux États-Unis, il est à Kinshasa ici. Si le gouverneur Kiaboula est passible d'une quelconque infraction, mais qu'on l'amène devant son juge naturel, l'Assemblée provinciale devrait constater l'absence du gouverneur au-delà de 3 mois, mettre faire une motion, on le met de côté, on organise les élections. Dès lors qu'il est encore dans cette situation-là, c'est un flou juridique, ça c'est marcher sur la loi. Voilà ma position à moi. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Moi, c'est la loi qui m'intéresse.
Emmanuel Mukundi, vous êtes professeur à l'université de Kinshasa, vous êtes député national élu de Nyunzu dans la province du Tanganyika, vous êtes aussi rapporteur du rassemblement des députés Katangé. Comment vous réagissez à cette absence prolongée du gouverneur?
Je ne peux pas me lancer dans le méandre juridique, mais je reste dans le monde politique. Que ce soit Kiaboula ou les autres gouverneurs du Grand Katanga, nous leur avons dit qu'ils sont victimes de leur choix. Parce que on leur avait dit que ces régimes vous recrutent pour vous utiliser, et lorsqu'on vous cisse comme du jus dans une bouteille, on vous jette comme l'emballage qui est la bouteille. Kiaboula, comme son adjoint et les autres, sont victimes du régime. C'est un régime qui vous utilise, et lorsqu'on trouve qu'on n'a plus besoin de vous, on vous jette. On a recruté Kiaboula pour museler les autres hommes politiques katangais, les grands hommes politiques katangais, notamment Kabila, Moïse et les autres. Et aujourd'hui, le volant tourne maintenant dans sa poitrine. C'est lui-même qui en est victime.
Alidor Kibanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN, vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Le problème est-il juridique ou c'est plutôt un problème politique?
Je constate que sur le plan juridique, le problème y est. Parce que la loi n'est pas respectée. Sur le plan politique, il y a aussi un problème qui a des répercussions sur le respect de la loi. La disparition du gouverneur qui n'a pas été constatée par l'Assemblée provinciale. Est-ce que la loi dit que parce que l'Assemblée n'a pas agi, il faut que le gouvernement central agisse? Je dis non. Ce que la loi n'a pas dit, on ne peut pas fabriquer de choses. Mais il y a déjà des cas que j'appellerais abusivement de jurisprudence. Nous avons vu Mouyej comment il est parti. Mais pour permettre à la province d'avancer, Mouyej a démissionné. Si on constate qu'effectivement il y a des problèmes, pour permettre à ce que le gouverneur puisse regagner sa province, mais il est membre de la majorité peut prendre des mesures pour le pousser à une démission, ce n'est pas à exclure, parce que c'est l'unique voie par laquelle, si l'Assemblée ne sait pas se prononcer, l'autre possibilité, c'est que le gouverneur doit accepter de démissionner ou doit être poussé à la démission pour permettre à la province de tourner normalement et dans le respect des normes.
Fin de notre journal. Vous pouvez continuer à suivre Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Capi. Ce journal a connu la coordination et la supervision éditoriale de Lévin Mbouinga Vubu et la mise en onde était assurée par André Mongou. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.